on a vécu un super week-end pour ceux qui étaient présents à Lézin, le week-end passé, le week-end de paroisse. Et est-ce que spontanément, il y en a quelques-uns qui veulent donner 30 secondes, là, un court témoignage de ce que vous avez aimé? Donc je ne parle pas des points à améliorer, ni de ce que vous avez envie de dire, que le Seigneur vous a dit ce matin, mais quelque chose que vous avez vécu, voilà, dans ce week-end, une chose, voilà, moi j'ai vécu ça, ceci, j'ai bien aimé ça, etc. Voilà, qui veut prendre la parole? On fait courtement, c'est une manière de remercier Dieu, comme ça. Merci Nelly. Les autres, venez seulement devant.
Bon, très, très court. J'ai beaucoup aimé la communion fraternelle, c'était super sympa d'être ensemble là-haut. Et ceux qui n'étaient pas là, vous nous avez manqué. Et puis on se réjouit de revivre encore un week-end d'église. Ouais, c'était vraiment agréable.
Et il a fait beau, quasi. Très bien. Quelqu'un d'autre? Merci Nelly. Quelqu'un qui a vécu... Ah, vous êtes monsieur?
Moi c'est Gilles, pour les intimes. Moi j'ai bien aimé la piscine, avec les enfants c'était super. Puis il y avait un moment très créatif où justement il y a un projet qui est en train de pointer pour l'année prochaine et j'ai bien aimé le fait que tout le monde était mis à contribution pour réfléchir au projet de l'année prochaine. Laurent vous en parlera.
C'est ça, un chouette projet, on se réjouit. Merci Gilles pour la contribution, j'espère que ça vous fait envie. Bien seulement Chantal, un chouette projet qui sera autour de la parole de Dieu pour nous, pour Dieu et pour les autres.
Bonsoir, j'ai beaucoup aimé ma chambre, partager ma chambre avec Pépita. C'était magnifique, on était que les deux et on n'avait pas envie de dormir, on papotait. Voilà, c'était un temps magnifique, pas seulement le soir avec Pépita, mais particulièrement avec Pépita.
Donc la nuit était courte, c'est ça? D'accord, merci Chantal.
Alors moi j'ai béni le Seigneur, parce que j'ai eu plein à manger, spirituellement, ces deux jours, ou trois jours même. Et vraiment j'ai vécu des choses très fortes avec le Seigneur, je suis encore empreinte toute cette semaine de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, avec son esprit, il a déposé des choses dans mon cœur, ne me demandez pas quoi, mais ça bouge là au-dedans de moi. Et vraiment, je veux garder ça comme un trésor dans mon cœur pour porter du fruit pour sa gloire. Et merci pour l'organisation. Merci à toi, Catherine, qui a eu tout le boulot aussi.
Merci. Merci. Merci, Thérèse. C'est vrai, il y a ce qui est visible et la communion fraternelle, mais il y a ce que le Seigneur fait dans nos cœurs. Et c'était une bonne chose. On vous donne rendez-vous à chacun, chacune, l'année prochaine, Dieu voulant. Mais je pense que voilà, ça devrait se faire. Moi, j'ai apprécié la qualité des orateurs aussi, des messages qui ont été donnés. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de réunions. On avait programmé, puis je crois que c'était guidé comme ça, autant de réunions dans ce week-end. Et voilà, on a quand même pu vivre la communion fraternelle, c'était chouette. Mais les réunions, c'est vrai, étaient enrichies vraiment de cette présence de Dieu. Très bien, alors prenez la parole de Dieu avec moi. On va se laisser encore guider par cette merveilleuse parole qu'il nous a donnée, la Bible. Ne faisons pas l'économie de venir sans la Bible au culte. Alors, la seule possibilité pour venir sans la Bible au culte dimanche, c'est que vous la connaissiez par cœur. Alors, moi, je ne suis pas loin, mais voilà. Donc, je vous encourage. Voilà. On est dans ce thème, dans cette série des relations. Donc, depuis quelques dimanches déjà, je vous parle des relations fraternelles, les relations dans l'Église, la communion fraternelle, c'est le mot-clé dans les Écritures. Le mot grec, ce n'est pas pour étaler ce que je sais, mais c'est le mot koinonia, puis ça a donné en commun, ce qui est l'unité. Quand on prend par exemple la Sainte-Cène, ben, y a un pain, et puis on le partage ensemble. C'est aussi cette idée de communion, c'est un mot très très fort, qui symbolise l'unité et quelque chose que le monde ne peut pas avoir. On peut être dans un club sportif, des amis, etc. On a une amitié, on peut avoir une amitié, mais la communion, telle que Dieu la veut et elle est possible d'être vécue, elle est dans l'Église, ça s'appelle communion fraternelle. On a un trésor qui est là, qui est extraordinaire, à préserver et à vivre. Donc on est dans cette série avec des enjeux majeurs. La communion fraternelle, c'est un enjeu majeur. Il y a d'autres enjeux pour l'Église et pour le monde. C'est l'annonce de la parole de Dieu, c'est un enjeu majeur. Mais la communion fraternelle, c'est donc un enjeu, fait partie des enjeux essentiels et majeurs. Du reste, Jésus, dans Jean chapitre 13, parle quelque chose d'inédit. Il donne un commandement nouveau. C'est gonflé, hein ? Il y avait déjà les 10. C'était bouclé normalement. Mais Jésus, le Fils de Dieu, dit à ses disciples, il rajoute un commandement. Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi, Seigneur ? J'imagine les disciples. Est-ce qu'il faut construire un bâtiment ? Est-ce que moi, je verrais bien une cathédrale ? Dit, Pierre. Moi, je verrais bien un mausolée. Est-ce que tu nous as dit que tu allais mourir ? Non. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Les unes les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc le défi que Dieu nous lance, c'est de nous aimer vraiment, 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 les uns les autres. Et comme je le disais dans un précédent message, l'amour, c'est un combat. Ne croyez pas que l'amour, c'est le petit nuage, le petit ruisseau qui coule, c'est le printemps. Ouais, ça fait partie, la romance, ça c'est de la romance, c'est génial, c'est bien. Mais on ne peut pas bâtir avec ça. On peut s'émerveiller, mais on ne peut pas bâtir des relations. Mais l'amour, c'est un vrai combat, c'est un vrai défi. Mais Dieu nous appelle à le vivre comme il le souhaite. Voilà, aimez-vous, dit Jésus, les uns les autres. Moi, comme je vous ai aimé, on peut puiser, c'est génial, et voir le modèle Jésus qui est le maître de l'amour. Alors, c'est un enjeu majeur parce qu'au verset 35, il dit « À cela, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà, la qualité de notre relation les uns avec les autres va directement induire une réputation sur l'Église, sur nous. Les gens du dehors, c'est l'expression biblique, hein, devraient pouvoir, en nous regardant, dire « Ah oui, ceux-là, c'est eux qui sont l'Église, c'est eux qui aiment Jésus, et ils s'aiment les uns les autres. » Ils devraient pouvoir le voir. C'est le témoignage, sans parole, quoi, hein, ou avec peu de parole, qu'on peut avoir à l'extérieur. Alors peut-être certains, ils hochent la tête, ils disent « Ouais, bah dis donc, il y a du boulot. » C'est vrai, mais le Seigneur, il ne désespère pas. Il n'est pas désespéré quand il me voit. Peut-être qu'il, voilà, lui aussi, il hoche la tête quand il me voit, mais il n'est pas désespéré. Et c'est son but, c'est sa priorité. Et finalement, ça part peut-être de la décision de dire oui, on veut s'aimer les uns les autres. Ça part peut-être de là. Au lieu de voir tout ce qui ne va pas, n'est-ce pas, on est prompt à voir ce qui ne jouerait pas encore, mais ça peut partir de là, dire oui, on veut s'aimer et on s'aime déjà. On s'aime déjà. Donc en disant ce message, je ne suis pas en train de dire on ne s'aime pas, mais je pense qu'on s'aime déjà, on s'accueille déjà, mais Dieu veut qu'on aille plus loin encore dans ces relations. C'est parti de cette série de messages, de ce qui s'est passé, je vous le rappelle, pas très loin de chez moi, à Saconnet-d'Arf, Flans-les-Ouatt, où tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait un étang qui existait, et c'était confirmé par la carte, mais je ne l'ai jamais vu, tellement il y avait de végétation luxuriante dans cet endroit. Et donc la commune a décidé de tout nettoyer, de tout cureter, et il y avait bien un étang qui était là. Et l'autre jour, j'ai vu un canard. Donc il avait la place pour aller fouiller au fond de la vase et retrouver sa nourriture. Donc avant, il n'y avait pas de place. C'était tellement la machette, quoi. C'était les tropiques. J'avais l'impression d'être comme dans d'autres pays. Voilà, mais tout est nettoyé maintenant et Dieu entend nettoyer nos relations pour qu'elles soient saines, belles et à la gloire de son nom. Et amen à ça, n'est-ce pas ? Amen à ça, de pouvoir se regarder l'un l'autre et de dire « oui, je t'aime vraiment ». Tu m'as fait ça, mais je t'aime vraiment. Je te pardonne, par exemple, le mot-clé, si jamais. Voilà, ça c'est à vivre parce qu'au préalable, nous avons réalisé l'amour de Jésus. Et nous sommes entrés. Jésus ne dit pas « viens dans l'église ». Il ne dit jamais ça. Hein. Paul non plus, je ne crois pas qu'il dise ça. Mais Jésus dit « entre dans mon royaume ». Le fait d'entrer dans le royaume de Dieu fait qu'on forme l'église. Mais on ne peut pas former l'église, selon Dieu, cette famille spirituelle si on n'est pas d'abord entré dans le royaume de Dieu. Et vous savez la clé pour entrer dans le royaume de Dieu ? Oui, il y a peut-être plusieurs clés, mais il n'y a qu'une porte en tout cas. Quelles seraient les clés ? Jésus. Exactement. Vous avez dit ? Juste Jésus et après vous avez dit quelque chose ? La croix en Jésus. Il y a une croix sur la porte du ciel, du royaume de Dieu. Et on invite chacun à rentrer. Notre vie est une invitation, ceux qui sont à Christ, à entrer pour les autres. Et puis, on les invite à faire le pas. C'est de la responsabilité individuelle, la croix. C'est vrai, Jésus a dit notamment, on ne peut pas entrer dans le royaume si on ne ressemble pas à un petit enfant. Donc, le royaume, c'est simple, c'est joyeux, c'est quelque chose qui est accessible. Tout le monde, il n'y a pas de limite. Vous savez, comme dans les... Si vous allez à Europa Park, il y a des manèges comme ça, des attractions. On ne peut pas entrer si on n'a pas 1m20, par exemple. Ce n'est pas une question d'âge, mais de taille. Sinon, il y a risque que l'enfant il dégage du siège, ou je ne sais pas, tellement ça va vite, et c'est intense. Bref, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cette limite-là. Tout le monde peut entrer. À partir du moment où il saisit ce qu'a fait Jésus, il peut entrer dans ce royaume pleinement, de manière consciente. Et donc, si tu rentres dans le royaume de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu, ou alors l'Église. Mais c'est dommage, ce mot église, il est un peu tronqué, parce qu'on pense tout de suite bâtiment. La plupart du temps, église, on pense bâtiment. Je vais à l'église. Et c'est un non-sens de dire ça. On ne peut pas aller à l'église parce qu'on est l'église. Voilà, c'était la petite minute enseignement biblique. Donc voilà, entrer dans le royaume de Dieu. Certains pensent qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont fait baptiser étant bébés, par exemple. C'était mon cas autrefois. D'autres pensent qu'ils sont entrés dans la famille de Dieu parce qu'ils sont sur une liste de membres d'église ou un registre. Mais bibliquement, ça ne tient pas. On peut seulement être de cette famille spirituelle et connaître ce projet d'amour parce que Christ, en effet, est dans notre cœur. Est-ce qu'il l'est vraiment ? La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu ou accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu as ce pouvoir, tu as reçu Christ en toi, tu le sais. Mais si tu poses la question à une personne qui dit, mais est-ce que tu as reçu Christ ? Ouais, je ne sais pas, j'ai entendu parler de lui. Alors, le pas n'a pas été franchi, c'est un peu le test. Faites le test avec quelqu'un. Les anciens qui nous ont précédés, les prédicateurs pentecôtistes, parlaient de l'assurance du salut, l'assurance d'être sauvé. Prédicateur évangéliste. Alors, est-ce qu'on a cette assurance d'être sauvé ? Et ça, c'est très important. Alors, une fois qu'on a cette assurance, alléluia, on fait partie de la famille de Dieu, on revient au projet du Seigneur, qui est qu'on forme une famille de Dieu. Ces choses, vous les savez, je pense, la plupart, mais c'est bon ce soir de les rappeler. Le mot famille signifie qu'il y a un père à la base. Je crois que c'est l'origine ou l'étymologie du mot. Le mot famille signifie qu'il y a un père et la famille de Dieu, il y a un père spirituel. Il n'y a qu'un seul père et c'est lui qui nous forme. Nous sommes ses enfants. C'est un privilège de faire partie de la famille de Dieu. Paul écrit, il nomme les gens de la famille de Dieu comme les gens de la maison de Dieu. Père, la maison qui est là et on fait partie de la maison de Dieu. On est gens de la maison de Dieu. On devrait avoir un uniforme les uns les autres. Ce serait bien de se reconnaître. Bon, il y a le poisson, des fois, sur les voitures. Hein. Ah, celui-là, c'est un vrai de vrai, enfin, je pense. Puis après, il double à fond. Vous dites, ah non, il n'est pas encore sanctifié, c'est pas bon. Il y avait une fois un pasteur qui témoignait. En fait, dans leur église, ils avaient fait des petits autocollants avec le nom de l'église. Puis il y avait peut-être un verset dessous. Vous savez, c'est un autocollant assez long comme ça. Puis il se retrouve dans un bouchon dimanche matin, quoi. Il devait aller au culte, il était stressé, tout ça. Puis, ni une ni deux, il a accéléré, il a doublé où il ne fallait pas, etc. Puis, il avait à sa voiture derrière le petit autocollant, je suis de l'église, machin. C'est le pasteur, quoi. Puis, en fait, il tombe, la voiture devant lui, c'est quelqu'un aussi de l'église avec le même autocollant. Puis, ça l'a fait un électrochoc. Il dit, waouh, attends, c'est de ma famille, etc. Voilà. Et puis, il s'est dit, parce que c'est une grande église, j'en ai peut-être doublé plein. Ils savent maintenant que c'est moi, etc. Bon, voilà. Donc, du coup, faisons attention à notre comportement. Petite parenthèse. Mais on est gens de la famille, personne de la famille de Dieu. On se reconnaît les uns les autres. Et ça, c'est génial. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Je t'aime et je veux t'aimer comme le Seigneur t'aime. Alors, dans ce défi de la famille de Dieu et des relations, Colossiens 3:13 nous dit ceci. Mais c'est peut-être pas pour nous, je sais pas. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a une raison valable, c'est moi qui rajoute, hein, parce que c'est toujours valable les raisons de ne pas se supporter, a une raison de se plaindre d'un autre, qu'est-ce que Paul nous dit ici, Colossiens 3:13, pardonnez-vous réciproquement. Et la réciprocité, la flèche qui va dans les deux sens. Pardonnez-vous aussi. Donc on a le devoir de s'aimer de la part de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, si ça arrive de se plaindre de l'un de l'autre, eh bien, exerçons le pardon. Eh bien, il y a plein de personnes, frères et sœurs, qui sont barrés de l'Église, entre guillemets. Hein. Ils quittent la famille de Dieu. Ouais, dans cette Église, vous voyez, ils commencent la plainte. C'est dommage, t'as pas lu Colossiens 3:13, c'est dommage, faut le relire. Voilà, quand tout va bien, c'est bien de dire les choses, mais quand tout va mal, c'est là qu'il faut se rappeler ces choses-là. En général, j'ai remarqué, quand il y a des tensions entre nous, eh bien, le Saint-Esprit, il s'arrange, même si on n'écoute pas, pour nous rappeler quelque chose. Un petit verset, un petit chant qui est là, qu'est-ce qu'il fait là, ce chant ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui travaille comme ça, qui nous rappelle quelque chose ou un événement. Il arrive tout discrètement, hein, il est un peu comme une colombe, il vient discrètement et il apporte quelque chose. On est appelé à nous aimer les uns les autres, à nous respecter, à nous aider. Oui, mais mon frère, tu vois, Seigneur, il a plein de défauts. Oui, mais il a aussi des qualités, pourrait répondre le Seigneur. Oui, mais il n'est pas comme moi. Ben, tant mieux, je n'ai jamais fait des robots. Je ne crois pas que le Seigneur a fabriqué des robots. Hein. Il a fait des robots ? Non, pas encore, hein, en tout cas. Moi, c'était mon métier avant. Hein. J'étais dessinateur technique, je dessinais des robots. Un robot, voilà, calculé et tout. Mais c'est tellement, la création de Dieu est tellement autrement que quelque chose qui est pratique. Il n'a pas fait quelque chose des gens pratiques, il a fait des gens qui doivent s'aimer, ce que nous sommes. Donc, nous sommes tous différents. Et puis, nos caractères sont différents et s'expriment différemment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que vous n'êtes pas comme moi. Vaut mieux pas, hein, je ne suis pas le modèle. Demandez à ma femme. Voilà, allons un petit peu plus loin encore là-dedans et laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Que faire quand ça ne joue pas ? C'est peut-être préventif ce soir, je ne sais pas. Hein. Que faire quand ça ne joue pas ? Jacques, chapitre 4. Alors lui, il ne mâche pas ses mots. Ça sent le vécu dans ce qui est écrit. Notre frère Jacques. D'où viennent, Jacques 4, pardon. Pas dit. D'où viennent les conflits ? D'où viennent les luttes parmi vous ? Ça, on peut l'appliquer au couple, à la famille, entre nous. Hein. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes, des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, si je comprends bien l'apôtre ici, si nous avons des tensions, ou quand il y en a, eh bien d'où ça vient, si j'ai bien lu le texte, vous allez me le dire. Verset 1. Des luttes. Et quoi d'autre ? Pardon ? Des querelles ? Oui, mais d'où ça vient, les querelles ? Oui, les passions, exactement. La passion, c'est ça que tu allais dire ? Ah oui, mais là, Jacques 4. Ouais. Donc, de vos passions, exactement, et des désirs. Donc, l'origine pour Jacques des tensions dans la famille de Dieu vient des passions et des désirs qui sont en nous. Permettez-moi de donner quelques exemples. J'y vais. Je ne vise personne. Hein. C'est vraiment comme les choses, je les avais à cœur. Mais si ça vous vise, bah, désolé. Voilà. Parfois, certaines personnes peuvent dire « Ah, mais tu sais, dans l'autre église ou dans cette église, ils vivent ça, c'est trop génial, c'est excellent. » Ils vivent ça et c'est trop fun, j'aime bien y aller, ou ça fait trop envie, ou c'est vraiment super ce qu'ils vivent. D'autres disent, ah bah sur Internet, j'ai écouté tel message, il faut que tu écoutes ça, Il faut que tu... Vas-y, c'est vraiment... C'est quelque chose, je suis sûr que c'est pour l'Église. Ou d'autres peuvent dire, ah ben j'ai lu tel livre, et puis ça donne un enthousiasme. Pasteur, il faut que tu lises ce livre. Vas-y, lis-le. Et je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu, hein, des fois. On est d'accord. Hein. Mais vas-y, il faut que tu lises ça. Etc. Quelqu'un peut dire aussi, ah moi je suis sûr que Dieu m'a dit ça. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. C'est obligé de marcher dans cette ligne-là. Dans ce que je vous dis là, c'est des sources potentielles de conflits et de tensions. Je ne dis pas que ce n'est pas inspiré, hein, on est d'accord par rapport à ça. Mais j'ai remarqué une chose avec notre Seigneur bien-aimé. Le Seigneur ne travaille jamais avec ce qu'on n'a pas ou avec ce qu'on n'est pas. Il travaille toujours, j'y vais avec le jamais, il est toujours, hein, avec ce qu'il a. Et dans sa famille, ici, il travaille avec nous. C'est ce qu'il a. Vous êtes là ce soir dans cette célébration. Eh bien, il travaille avec vous. Il ne travaille pas à Aunay avec l'autre église. Et ce qu'elle dit, moi je bénis toutes les communautés, je prie pour les autres pasteurs, les ministères, tellement réjouis de cette richesse qu'il y a à Genève. Mais Dieu travaille dans la paroisse d'Aunay avec ceux qui sont de la famille d'Aunay, pas avec ceux qui ne sont pas. Puis à la limite, humblement, ça ne m'intéresse même pas ce que mes frères et sœurs vivent dans l'intimité avec Dieu, dans leur communauté. Je suis réjoui s'il laisse le Saint-Esprit agir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait ici, par exemple. C'est ce qu'il fait dans l'Église, parce qu'il m'a placé là. Donc, je n'ai pas une aspiration et une jalousie et une envie, comme dit le texte là, un petit peu plus loin, de me dire, ah Seigneur, si tu pouvais seulement faire ce que tu fais là-bas, ici, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ensemble, le projet de Dieu ici se réalise. Et donc, on peut être 12, on peut être 3000. Je ne sais pas comment gérer 3000, ça je ne sais rien. Moi, je suis un pasteur d'une communauté qui est là, etc. Et Dieu travaille là, dans cette communauté, et chacun ici a sa place. Et voilà, il y a l'équipe pastorale, et je suis le pasteur de cette communauté, et je suis tellement réjoui de ce qu'il peut faire dans la communauté. Quand nos cœurs sont ouverts, il le fait, le Saint-Esprit peut agir. Quand Jésus parle à ses disciples des choses qui sont essentielles pour lui, je vais aller à la croix. Je fais la Sainte Cène avec vous parce que je vais instaurer une nouvelle alliance avec mon sang. Je vais vous envoyer quelqu'un que le monde ne peut pas connaître, c'est le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là qu'il parle, il les parle avec ses disciples. Pas avec les 120, mais avec les 12. Qu'avec les 12, il les prend en petits groupes comme ça et il parle à leur cœur. Il parle du plus important qui est là, il les déverse. Merci Jean l'apôtre d'avoir pris des notes, on n'aurait pas ça sinon, dans l'intimité. Est-ce que tu es intéressé par ce que le Seigneur est en train de faire dans la famille de Dieu à laquelle tu es là? Mais si ton cœur il est éloigné, ou si tu vas simplement à la célébration ou au culte, ben, alléluia, merci Seigneur, mais il faut t'impliquer dans ces relations d'amour, et c'est le projet de Dieu. Alors parfois, certains n'arrivent pas à s'impliquer parce que dans leur cœur ou dans leur âme, il y a des blessures qui sont là. Et ça, je suis très conscient de ça. Moi, j'en ai aussi. On a tous nos cicatrices, je pense, au cœur. Le Seigneur le sait. Mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas laisser le Consolateur toucher nos vies et nous restaurer. Certains, ils pensent que, oui, mais ce que j'ai vécu dans l'autre église, je ne pourrais jamais le revivre ici. C'est vrai, jamais. Parce que Dieu fait quelque chose de nouveau ou de différent ici, dans ce lieu. Mais tu as ta place. Tu as ta place. Tu as ta place. Tu as ta place. Membre de la famille de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ local. Je ne parle pas du corps de Christ universel. Ça, voilà. Mais la matérialisation du corps de Christ mystique, comme les théologiens l'appellent, eh ben, c'est l'Église locale ici. Tu as une famille. Tu as une famille. Et tu dois en faire partie. C'est dans ce lieu que Jésus-Christ se plaît à manifester sa présence, à guérir les cœurs, à rassembler sa famille. Pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, quand on recherche quelque chose que l'on n'a pas dans une église locale et que l'on veut changer les choses et les autres, eh bien, on entre dans une spirale d'insatisfaction permanente qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Dieu travaille avec l'argile qu'il a et pas avec celle qu'il n'a pas. Jérémie va chez le potier sur un ordre du Saint-Esprit. Le prophète voit le potier en train de travailler sur son tour, qui fait un vase, mais le vase rate. Vous voyez cet épisode, c'est dans Jérémie 18. Il voit ça. Et tout de suite, le Seigneur nous parle. Avec la maison d'Israël, je veux refaire le vase. Je veux refaire le vase. Et c'est ma liberté de le faire. Je suis Dieu, j'ai envie de le faire. Est-ce que tu es prêt à te laisser façonner par le Seigneur, par le divin potier? Comment travaille-t-il? Il travaille par sa parole. Lorsque tu lis et médites la parole de Dieu, que tu la laisses pénétrer, hein, pas sur le coin de table en train de boire le café vite fait, café brûlant en main, je suis en retard, mais laisse-la pénétrer, vaut mieux tu le laisses passer, mais tu prends un moment dans la journée plus calme et plus tranquille pour laisser la parole de Dieu pénétrer. Et bien lorsque tu laisses pénétrer cette parole de Jésus, elle devient vivante en toi et elle te façonne. Et puis tu es là en train de dire, waouh, attends Seigneur, c'est ça que tu me dis? Alors tu veux me changer comme ça? Oui, parce que c'est un miroir. Hein, c'est pas un miroir pour éblouir les autres, c'est un miroir pour qui reflète notre image. La parole de Dieu, et il utilise dans la famille de Dieu les frères et sœurs inspirés. Il faut reconnaître, parfois on n'a pas toujours été inspirés. Mais les frères et sœurs inspirés, Dieu les utilise pour nous façonner à son image. Et quand tu mets au défi le Seigneur de te parler à travers les frères et sœurs, il le fait. Et des fois, il ne le fait pas avec la personne que tu aimerais que le Seigneur utilise, mais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est embêtant. On aimerait qu'il utilise toujours la personne qu'on aime bien et qui nous caresse peut-être dans le sens du poil. Voilà. Mais il le fait, si tu es d'accord, voilà, avec la personne de son choix, parce que le Saint-Esprit est souverain et on veut lui laisser cette souveraineté. Donc, il utilise la parole de Dieu, les frères et sœurs inspirés, les relations fraternelles, donc inspirées, on peut, voilà, dans la prière par exemple, les relations fraternelles vécues dans ce cadre de la famille de Dieu. Relations fraternelles, il utilise ça. Une attitude d'un frère ou d'une sœur peut te parler, peut te reprendre, peut te montrer l'amour de Dieu, etc. D'où l'importance d'être ensemble. Amen. Jésus dit, oh Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits, ses poussins. Il y a un cœur de berger chez Dieu qui est énorme. Il veut rassembler pour qu'on vive ces belles relations fraternelles. Voilà, exceptionnellement, le Seigneur peut utiliser des circonstances externes à l'Église ou d'autres personnes. Il peut le faire, mais ce n'est pas son habitude. Il me semble qu'il le fait si on n'écoute pas assez. Si vous voulez une preuve, ben, il m'a semblé que Balaam est un bon exemple. Balaam, le prophète, ou le voyant, c'est un peu confus cette histoire, mais n'empêche qu'il est capable d'écouter Dieu et la voix de Dieu assez clairement. Dieu lui montre des choses. Et puis, il y a un roi d'un autre pays qui soudoie Balaam, parce qu'il sait que Balaam écoute, il a une relation directe avec Dieu. Il le soudoie, il lui promet des beaux cadeaux, des corruptions, hein, des toutes tables, pour que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Et Balaam a un problème avec l'argent, problème de convoitise, de désir de posséder. Alors il dit, ok, j'y vais. Mais en même temps, il dialogue avec Dieu. Alors des fois, il force la main de Dieu pour dire, allez, laisse-moi y aller, etc. Je résume, hein, vous lirez l'histoire si vous voulez, dans Nombre 22. Il y va quand même, et Dieu, quelque part, lui permet, vous savez, c'est comme un, je ne sais pas, comme... Bon, j'ai un exemple en tête. Une fois, j'étais dans une école, là, dans un cycle, et puis il y a une fille qui téléphone à son père. J'étais à côté là, j'attendais, je ne sais pas, Audrey. Puis il y a une fille qui téléphone à son père, puis qui dit, papy, donne-moi 100 balles ou 50 balles. Allez, vas-y, faut que j'aille à un anniversaire. Puis elle lui mettait la pression. Puis je savais que le père, au bout du fil, en fait, il disait non. Qu'elle avait assez, qu'elle avait sûrement de l'argent de poche, etc., qu'elle devait gérer son budget. Puis il y avait les copines qui lui mettaient la pression à côté, quoi. « Allez, donne-moi 50 balles !» Puis évidemment, elle a raccroché, je crois qu'elle a raccroché. Hein ? Tu te souviens, Audrey ? Non ? Bref, elle a raccroché, elle n'a pas eu ses 50 balles, quoi. Elle voulait forcer la main, et des fois, on force un peu la main de Dieu. Bref, Balaam, il est dans cet état d'esprit-là, il force la main de Dieu, et Dieu va utiliser les circonstances pour lui dire « Arrête maintenant, tu vas trop loin ». Tu ne peux pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Et qu'est-ce qui se passe? Il utilise un âne, une ânesse, son moyen de transport favori. C'était, je crois que les ânes, à l'époque, c'était royal. Hein, pas tout le monde avait un âne. Donc voilà, il utilise une ânesse qui va ouvrir la bouche et parler hébreu, j'imagine. En tout cas, une langue sémite. Et Balaam, il répond à l'ânesse, sans tout de suite se rendre compte avec qui il parle, tellement il est dans son histoire, il va tout droit, tête dans le guidon, etc. Et après, Dieu va ouvrir les yeux de Balaam. Un jour, j'ai vécu un exemple, j'allais trop loin, et je rentrais de l'école, j'étais étudiant, je rentrais du lycée, et puis j'étais jeune converti, puis je commence un peu à m'emporter sur l'église que je fréquentais autrefois, l'église historique, et je disais tout ce qui n'allait pas, etc. Puis à un moment donné, mon camarade conducteur qui me véhiculait me regarde, puis il me dit, mais tu sais, j'y suis pour rien, moi. Ouf. Ouh là là, ça va calmer d'office, ça va calmer direct. Hein. Voilà, on a besoin de ça peut-être. Mais en tout cas, j'étais allé trop loin, j'ai demandé pardon à mon Seigneur pour cela. Il peut utiliser les circonstances extérieures pour cela. J'arrête là, je résume. Dieu a un projet formidable de relations inédites, extraordinaires, profondes les uns avec les autres, au point qu'il nous appelle corps de Christ, dépendants les uns des autres. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens indépendants, qu'on aille dans tous les sens, mais il veut nous unir. Il veut te façonner, si besoin te guérir, pour qu'on vive ces relations. Laisse-le être le potier. Réalise que tu es simplement l'argile, la glaise qu'il veut façonner. Il le fait par la parole de Dieu. Il le fait au travers des frères et sœurs inspirés. Il le fait au travers des relations fraternelles et j'espère pas, le moins possible, au travers des circonstances extérieures. Est-ce qu'on est partant pour le projet de Dieu ?